réplique Qui était Manouchian avec Annette Wiewiórka et Denis Péchanski. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand ». C'est par Léo Ferré, chantant ses vers d'Aragon, que comme beaucoup de gens de ma génération, je connais l'histoire de l'affiche rouge. Je sais aussi que l'auteur de la lettre citée et stylisée par Aragon est Missak Manouchian. Celui-ci a été fusillé avec ses camarades le 21 février 1944 et il fera son entrée au Panthéon le 21 février 2024, soit tout juste 80 ans après sa mort. Pour nous préparer à cet événement, et pour en mesurer la portée historique, j'ai voulu aller au-delà du poème. J'ai donc invité les historiens Annette Wiewiórka et Denis Péchanski. Et voici ma première question. Quelle a été la vie de Manouchian avant qu'il n'entre en résistance ? Denis Péchanski.
Je dirais qu'il est impossible de comprendre quoi que ce soit à Missak Manouchian si évidemment on ne fait pas référence au génocide des Arméniens. Il naît en 1906, il va être un orphelin du génocide, puisqu'en 1915, il va perdre son père, qui va être assassiné dans les combats, il va perdre sa mère, qui va mourir de privation, de faim, et lui va être caché avec son frère, Garabé, dans une famille kurde, et finalement va atterrir dans un orphelinat, qui est un orphelinat qui se trouvait à Djounié, donc à proximité de Beyrouth, donc dans un protectorat français. Ça, c'est un point très important, parce que dans cet orphelinat, il va y rester jusqu'en 1924, il va avoir une éducation en arménien et en français, et il va déjà intégrer toute une littérature, la littérature classique et moderne française, et ça aura des conséquences sur sa vie dans l'entre-deux-guerres. Et aussi parce que la France avait besoin de main-d'œuvre après la Première Guerre mondiale et la saignée de la Première Guerre mondiale, on va chercher partout de la main-d'œuvre, et en particulier dans les camps de réfugiés et parmi les Arméniens qui vont venir massivement. Lui, il vient donc en septembre 1924. Il avait fait déjà un apprentissage de menuisier, donc il va faire des petits métiers dans l'entre-deux-guerres. Et puis, je dirais, un deuxième moment, ça va être le moment des années 30, où il va avoir une formation politique inscrite sur fond de front populaire et de lutte antifasciste. Ça, c'est vraiment, ça a marqué son identité, ça va avoir des conséquences, évidemment, sur son engagement postérieur. Donc, il va être dans les mouvements arméniens. Il rentre sans doute au Parti communiste après l'émeute du 6 février 34, dans la foulée, et puis il va être dans les organisations arméniennes de l'immigration, avec une situation un peu ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a une partie de cette immigration qui se bat pour le retour en Arménie soviétique, puisqu'il y a une Arménie soviétique, il va en être, mais en même temps, lui veut rester en France.
Ah oui.
Et la grande... Je dirais, vous savez, quand on est historien, qu'on a travaillé pendant des années, on le sait bien, Annette Wiewiórka et moi, on travaille sur des centaines et des centaines de cartons sur le sujet, et puis, au moment où il y a une réactualisation, vous avez, comme dans mon cas, un archiviste de la préfecture de police de Paris qui me dit, on discutait, mais est-ce que vous avez vu le dossier d'étranger éventuellement? Je dis, ben non. Il me montre le dossier d'étranger et là, je découvre, mais ça c'était il y a 4 mois, je découvre qu'il a fait une demande de naturalisation en 1933.
Ah oui, quand même.
Et je redemande alors aux Archives nationales le dossier complet de naturalisation, et je m'aperçois, et on y reviendra pour évoquer les débuts de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a fait 2 demandes de naturalisation en 33, donc avant même son entrée dans la mouvance communiste, on va dire, et en janvier 1940, c'est-à-dire après la signature du double pacte germano-soviétique.
Donc il était vraiment, comme dit Aragon, un Français de préférence.
Ah, c'est très clair pour lui.
C'est très clair pour lui. Vous voulez ajouter quelque chose, Anadji Vercoeur ?
Non, il faudra ensuite discuter de ce que ça veut dire français et communiste, à une époque où la MOI, la main-d'œuvre immigrée, les partis communistes lui-même, sont quand même très fortement liés à l'Union soviétique. Et c'est pas Denis Péchanski qui a publié les télégrammes de l'Internationale communiste qu'on peut apprendre qu'il y a eu ce lien très intime. Je pense que la personnalité de Manouchian est un peu particulière dans ce domaine-là. Parce qu'effectivement, il signe sa dernière lettre, Michel.
Oui, ça c'est très important.
C'est très important.
C'est la lettre à sa femme qu'il a écrite quelques heures
dans le même temps,
avant sa mort.
Voilà, dans le
Manouchian,
temps,
Michel.
On y reviendra peut-être, Méliné. En Arménie soviétique, pas toute seule, hein. Il y a des milliers d'Arméniens qui, après la guerre 47, partent en Arménie soviétique. Donc, je pense qu'il faut rester sur les deux jambes. C'est-à-dire, d'un côté, le désir d'une partie de ces étrangers d'être français, et beaucoup par le rayonnement qui était celui de la culture française.
Oui.
Je pense par exemple à la famille Delec, de Thomas Elec, parce que c'est bon aussi de rappeler quelques noms de ceux qui ont été fusillés en même temps, qui étaient aussi des amoureux de la culture française. Mais pour ceux qui étaient impliqués, et je sais pas, mais je crois que il a été salarié de ces organisations communistes dans la dernière partie avant la guerre, donc payé par les organisations liées à l'Internationale communiste. Donc je pense quand même qu'il faut maintenir les deux et ne pas faire de ces personnes qui étaient très engagées, qui étaient aussi des internationalistes, ce qui est une forme d'universaliste, simplement et que des patriotes français.
Il ne faut pas oublier que Manouchian était poète et traducteur. Je crois qu'il a notamment traduit Verlaine, donc son attachement à la culture française était très fort, très authentique. Mais justement, j'ai une petite question avant de poursuivre l'étude de sa trajectoire. Il signe cette lettre à sa femme, absolument bouleversante, Manouchian Michel. C'était sa façon, à lui aussi, de s'assimiler, d'entrer dans la culture française. Pourquoi a-t-on voulu lui rendre son premier prénom ? Et pourquoi dit-on aujourd'hui, Denis Péchanski, que c'est Missak Manouchian qui entre au Panthéon ?
Parce qu'il n'a jamais renié son prénom. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Anadji Vercoeur. Il y a une sorte de... Enfin, il y a une combinatoire de plusieurs identités qui font la personnalité de ces combattants. Il y en a qui sont particulièrement intégrés, au point d'ailleurs d'avoir été naturalisés, ou bien d'être nés français tout en étant combattants au sein des francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée dont on parlera. Et ça, faut toujours avoir en tête cette idée de pluralité identitaire qui va devenir... On en parlera, mais une fois, enfin, ça ne posera aucun problème en 42-43. Ça en posera évidemment avec le pacte germano-soviétique et dans le
contexte
du début de la guerre.
Mais justement, alors, parlons du pacte germano-soviétique. Il était internationaliste, il aimait la France, il voulait être naturalisé français. Survient le pacte germano-soviétique qui surprend évidemment tous les communistes. Quelle a été la réaction de Manouchian ? A-t-il été un communiste loyal ou a-t-il été ébranlé dans sa foi dans l'Union soviétique ?
Alors, d'abord, le pacte japon-soviétique a été un tremblement de terre pour l'ensemble des communistes, plus ou moins, on l'a plus ou moins accepté, mais ça a été vraiment le signe aussi d'un effondrement intérieur par rapport au parti si fort, si puissant durant le Front populaire. Et sur une autre ligne, bien entendu, puisqu'il y a un changement stratégique après la signature des deux pactes germano-soviétiques en août et septembre 1939. On n'a pas de traces précises de la position de Missak Manouchian au moment de ces pactes. Mais on a deux indices. Le premier, c'est une lettre de un de ses amis qu'on a retrouvé dans ses archives et il lui renvoie un mot alors que Manouchian est à l'armée, j'y reviendrai, et il lui met à un moment donné dans les tours de phrase, il dit, et puis nous irons jusqu'à la victoire finale contre les nazis. Donc, on est dans une perspective qui était là en l'occurrence, mais c'est pas lui qui l'écrit, hein, qui n'était pas celle évidemment de la dénonciation par le parti de la guerre dite impérialiste, renvoyant dos à dos les Allemands et les Anglo-Français. Bon, on a un deuxième indice, c'est que il a demandé à intégrer l'armée française.
Ah oui, c'est ça.
Alors il est arrêté le 2 septembre 39 comme responsable communiste dans l'immigration, donc. Ça fait partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement d'Aladier-Reynaud au moment de la déclaration de guerre. Et puis après, il va être libéré début octobre et il va rentrer dans l'armée le 17 octobre 1939 en Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est que au bout de quelques mois, il va redemander officiellement d'être naturalisé français, demander à nouveau cette naturalisation le 14 janvier 1940, ça n'est pas une déclaration officielle, mais c'est un signe assez fort.
D'ailleurs, je crois, à Nadjurka, que nombreux ont été les étrangers à l'époque, qui, je crois, vous le dites dans votre livre, qui ont voulu s'engager dans l'armée française
et qui se
pour
sont
payer leurs dettes à l'égard d'une France qui disait hospitalière.
Qui ont rejoint les régiments de volontaires étrangers. Mais je crois quand même que si on veut comprendre quelque chose, il faut voir les modifications de la ligne d'un parti communiste qui est, à certaines périodes, sectaire, qui, au moment du Front populaire, réintègre les symboles nationalistes français, la Marseillaise, le drapeau. Je crois qu'Aragon dit « le parti m'a rendu les couleurs de la France ». Donc il y a cette période-là. Et c'est la période où le Parti communiste se dilate, devient un parti important, 72 députés au moment du Front populaire. Et puis ensuite, avec la période du pacte germano-soviétique, il se réduit comme peau de chagrin et redeviendra un parti puissant dans les périodes d'après-guerre, où il y a ce que Annick Riegel appelait le national-thorésisme, c'est-à-dire où, de nouveau, le parti redevient national. Sur la question du pacte, il faut un petit moment pour réaliser ce qu'est le pacte. Par exemple, Maurice Thorez rejoint son régiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas immédiatement la prise de conscience, elle viendra un peu après. Bon, je ne vais pas rentrer dans les choses un peu compliquées qui est le rapport entre Staline et la Troisième Internationale. Mais il y a cette espèce de période que j'appellerais presque de latence qui est celle où tout reste indécis et où, en quelque sorte, par une sorte d'inertie, les communistes restent dans ce qui avait été la perspective. Mais effectivement, beaucoup rejoignent les régiments de juifs étrangers émigrés, rejoignent ces régiments de volontaires pour se battre. Et y compris Raïski, Adam Raïski, qui sera un des responsables, qui lui rejoint la partie de l'armée polonaise. Donc on a une petite période qui est extrêmement confuse et c'est difficile de savoir ce que les gens ont vraiment ressenti. Sinon, le choc terrible de voir que l'antifascisme, qui avait été la ligne politique du Parti communiste et qui avait assuré son succès, terminé.
Oui, terminé. Donc, en tout cas, il semble bien, vous l'avez dit, Denis Bichansky, que il continuait, Manouchian, dans la ligne du combat contre le nazisme, même au moment et après le moment du pacte et après. Bon, ensuite, les communistes, la guerre éclate entre l'Union soviétique et la Russie, les communistes entrent massivement en résistance, Manouchian donc se retrouve parmi les francs-tireurs partisans de Moy, de la main-d'œuvre immigrée. Il y joue un rôle important. Mais justement, quelle a été exactement la fonction de Manouchian dans la Moy, Denis Péchanski?
Alors, faut déjà rappeler que la main-d'œuvre immigrée est une structure qui, sous un autre nom, main-d'œuvre étrangère, avait été constituée dans la suite de la Première Guerre mondiale, en voyant l'afflux de ces centaines de milliers d'étrangers. Le Parti communiste a dit, là, il faut qu'on crée des structures d'encadrement. Et ça a été très intéressant de constater comment le Parti communiste va jouer le rôle de vecteur d'intégration pour toute une série de ces étrangers, et en particulier les réfugiés politiques, où ils trouvent là un accueil, je dirais, logique, normal, habituel. Donc des structures, des groupes de langues, ce sera intéressant parce qu'il y a des groupes de langues différents. Et par exemple, pour les juifs, il y a un groupe de langues juifs, c'est les yiddishophones, mais on trouve aussi des juifs dans le groupe de langues des bulgares, des tchèques, des roumains, etc. La main-d'œuvre immigrée va rester donc la composante politique. Et dans la suite de l'engagement du PC dans la lutte armée, hein, en août 1941, on va avoir des structures qui vont être mises en place, d'abord diverses, pas rentrer dans le détail, mais pour les étrangers à Paris, c'était l'organisation spéciale de la main-d'œuvre immigrée, qui est dirigée par un Espagnol, Miret Must. Et en avril-mai 1942, il y a constitution des francs-tireurs et partisans, là, donc, on réunit ces forces armées, et à l'intérieur de ces francs-tireurs et partisans, des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, qui ont donc une double tutelle, une tutelle politique vers la MOI et donc le PCF, et une tutelle militaire combattante vers les francs-tireurs et partisans.
Et lui était
dans cette... que si on revient, si on reste un peu centré autour de Manouchian, il faut dire d'abord qu'il rentre relativement tard, si on compare avec ses compagnons fusillés en février 44, et puis beaucoup d'autres qui ont été fusillés avant, bon, Valérien, hein. Malheureusement, la fiche rouge, enfin les 23, enfin les 22 fusillés, puisque Olga Banchik a été guillotinée à Stuttgart, ne sont pas les premiers, il y en a eu beaucoup. Donc il rentre relativement tard, il rentre dans un rôle qui au départ est modeste, et il faut une série de décisions, et notamment le fait que Boris Holban, Barour Brourman de son vrai nom, est démis de ses fonctions pour que Manouchian le remplace. Donc c'est une entrée qui est une entrée relativement tardive dans la lutte armée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas été résistant avant.
Oui, d'accord, mais dans la lutte armée, cette lutte armée a été quand même importante, et des raillements, des attentats qui se sont multipliés. Et là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Manouchian, et d'ailleurs Adam Reisky aussi, ont compris qu'ils étaient traqués, et ils ont demandé à la direction du Parti communiste d'être dispersés, c'est-à-dire d'aller en zone sud.
Mais avant, je veux simplement préciser, donner quelques dates. Il va rentrer effectivement dans le premier détachement des FTP-MOI à partir d'une action assez spectaculaire le 17 mars 43. Il va prendre très rapidement la direction de ce premier détachement. Au total, il y a 4 détachements plus bientôt une équipe spéciale. Et puis, avant de remplacer Boris Holban comme responsable militaire dans ce qu'on appelle le triangle de direction, il va rentrer dans le triangle de direction comme responsable technique au début juillet 43. Donc, c'est assez logique qu'à partir du moment où il y a, quand on lit le Testament, c'est le livre super d'ailleurs de Boris Solban, qui était responsable des FTP MOI avant Manouchian militaire et qui le sera après la chute, donc une personnalité absolument majeure. Eh bien, on voit bien que responsable technique, désaccord semble-t-il avec la direction sur la stratégie, la tactique de lutte armée, il va prendre membre du triangle de direction assez logiquement. Il va remplacer Holban. Il y a une sorte de cursus, on va dire,
oui,
qui n'est pas surprenant pour Manouchian. Alors, si on reprend là ce que j'appellerais l'espèce de confrontation radicale, il faut savoir que on a face à face un groupe de quelques dizaines de combattants, hein, puisqu'on a les rapports d'effectifs et les rapports financiers de ces FTP MOI de la région parisienne. Il y en a eu d'autres dans d'autres villes, on pourra le dire rapidement, mais là on se concentre évidemment sur le cas des FTP MOI de la région parisienne. Eh bien, face à ces quelques dizaines de combattants, bon, il y a les brigades spéciales des renseignements généraux,
oui,
auprès de la préfecture de police, qui vont avoir un rôle absolument décisif dans le repérage, la traque, les arrestations, les interrogatoires, dans des conditions qu'on peut imaginer. Et ensuite, ils livrent aux Allemands le résultat de leur travail. On a eu trois filatures qui vont s'enchaîner entre janvier 43 et novembre 43, qui aboutissent dans une troisième étape, puisque à chaque filature, ça se termine par des arrestations, ça aboutit à la chute des FTP MOI stricto sensu.
Oui.
Mais ne pas oublier que dans la deuxième filature, Raïski va effectivement partir en province, c'est un responsable MOI, il était repéré dans la filature. Bon. Il a réussi à avoir l'information que là, il y a un vrai danger, et donc, il va partir. Mais le groupe, si on prend le détachement juif, ce qu'on appelle le deuxième détachement des FTP MOI, et la partie politique de la MOI, du groupe de langue juive, c'est un effondrement à la fin de la deuxième filature, avec des arrestations par dizaines.
Par dizaines, oui, bien sûr, mais...
Et donc, on ne... autant... Quand vous dites Manouchian aurait demandé à être exfiltré, on n'en a honnêtement aucune
preuve. En tout cas, aucune preuve. Raïski, lui,
oui,
l'a demandé. Les cadres communistes ne sont pas faits pour rester en conserve. Lui
vous
a-t-on
savez,
dit
nous autres, les historiens, on est toujours, un peu suspicieux à l'égard des mémoires. Moi, j'ai reconstitué pour la nouvelle édition de ces Juifs communistes toute cette histoire. Or, le fait qu'ils étaient suivis et repérés, Raïski est au courant très rapidement par une lettre qui a été envoyée de l'hôpital Rothschild par Paulette Schlifka, qui était à l'époque la compagne d'Henri Krasucki. Donc, ils le savent. C'est après, dans leur mémoire, de se donner un rôle plus éminent ou plus perspicace.
Mais quelle était la stratégie des communistes? La libération se préparait, enfin elle était dans toutes les têtes, il y avait déjà une certaine concurrence entre le Parti communiste et les gaullistes, et n'y avait-il pas l'idée de montrer une résistance très forte et très ferme, quitte à sacrifier un certain nombre de gens, parce qu'on pouvait ainsi fonder sur l'héroïsme des FTP MOI, disons, la résistance communiste, et lui donner le poids nécessaire au moment où la France allait être libérée.
Qu'est-ce qui se passe entre le moment où Adam Raïski, Stéphane Courtois et Denis Péchanski écrivent « Le sang de l'étranger » et aujourd'hui, il y a l'ouverture des archives. Et là, on voit, et c'est la thèse de Liègre, de Franck Liègre, et là on voit que contrairement à ce que nous avons écrit les uns et les autres, il n'y a pas que les FTP MOI à Paris. Et il y a quelque chose qui est assez piquant, c'est que quand on regarde l'affiche rouge, parce qu'on est quand même autour de l'affiche rouge, et qu'on regarde les 6 photos qui ont été marquées. Il y a 2 commissaires de police, Franck Martineau et je ne me souviens plus le nom du second. C'est eux qui sont sur la photo. Il y a notamment le torse criblé de bas de Franck Martineau. Et son fils, Michel Martineau, a fait toute une enquête. Franck Martineau était commissaire de police à Gonesse. Il a été exécuté ou assassiné, on choisira le mot, par des FTP-F, pas MOI. Il était en même temps résistant, probablement, au BCRA. Et cette histoire n'est pas d'une clarté limpide. Mais ce qui est sûr, c'est que, alors que nous avons cru, par les sources dont nous disposions à l'époque, qu'il n'y avait que la MOI, que les FTP-MOI à Paris, non, il y avait aussi d'autres. Et je voudrais juste encore un petit détail. La dernière chute, bon, Denis Péchanski a raison, brigade spéciale, ils sont très très bons. Et là, il y a un consensus de l'ensemble des historiens sur l'importance des filatures, la minutie des filatures et l'extrême professionnalisme de ces filatures. Donc là, on est tous d'accord. Mais il y a aussi des gens qui rentrent. Moi, il y en a deux qui m'intéressent beaucoup. C'est Rino Della Nera, soi-disant italien, mais en fait, il était français. Et Robert Vichis, qui lui aussi était français. Et ce sont les deux qui rentrent pour fuir le STO. Ça veut dire qu'on a, à un moment donné, un renouvellement aussi de ceux qui rentrent dans ces...
Qui rentrent FTP, où ?
Qui rentrent dans les FTP MOI.
Alors, c'était des espions ?
Sur la fiche rouge. Non, non. Ah non, c'était des jeunes gens. Rino Della Nera devrait vous toucher, Alain, parce qu'il était au Red Star et il avait une carrière de footballeur devant lui. Et il ne veut pas partir au STO. Et,
ah, c'est ça, il ne voulait pas partir au STO, donc il rentre.
Ah oui, c'est ça. Et Léon Vichitz, dont la mère... Robert, pardon, dont la mère était française, il était même pas juif. Il est marqué juif polonais, il n'était pas juif selon la Lara. La loi juive, pas juif non plus. Donc il y a aussi, en dehors du noyau, d'autres gens qui rentrent à ce moment-là.
Très bien. Alors, simplement, on n'a pas d'assurance très précise sur les raisons pour lesquelles la FTP, MOI, enfin les MOI sont tombés. Il y a eu effectivement l'extrême efficacité des filatures. Mais je voudrais maintenant aborder une autre question, celle de la réaction en France à la fiche rouge. Il y a un passage de votre livre tout à fait stupéfiant, Annette Viviorca, votre livre « Des Juifs résistants communistes ». Vous citez Lionel Rochman dans « La Belle Âge ». Il lui-même a été maquisard. Et il dit ceci... Une trop pieuse hagiographie a depuis idéalisé pour la postérité ce qui fut ressenti en réalité sur le moment. Le moment, donc, ce que ressentit à la vue de cette affiche rouge placardée dans toute la France. Cette image d'une main inconnue écrivant la nuit sur l'affiche rouge « Martyr ». Une main, une seule main, quel faible pourcentage. Une main peut-être... À Paris peut-être, à Guéret non. Dans aucun Guéret, malgré la résistance montante. Se fût-il appelé Martin ou Durand, les choses auraient été très différentes, écrit-il en substance. Après des années de martèlement anti-juif, même les résistants se devaient être de bons Français de souche, bien de chez nous. Les nazis de France... nous avait entraînés là, sur leur terrain. C'est une phrase assez terrible. Ça veut dire, en quelque sorte, que cette affiche, avec ses noms imprononçables, a eu un certain impact, semble-t-il, en France, même parmi certains résistants et même parmi certains juifs, dont Lionel Rochman. Que faut-il en penser ?
C'est quand même extraordinaire de tirer des conclusions sur l'état de l'opinion en France à partir d'un témoignage sur le sujet. Je suis désolé, mais pour revenir par exemple sur la responsabilité d'abord et de la demande éventuelle d'être mise à l'écart, et puis de ce que voulait faire le Parti communiste, il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité qui a eu un rôle très important, qui est Epstein. Epstein était le chef des FTP-F de la région parisienne. Il était sous une fausse identité, dit français, arien, bien entendu. Il ne sera jamais identifié, sauf que c'était un juif polonais, mais qui dirigeait les FTP-F de la région parisienne. Si jamais il avait craqué, si jamais il avait parlé non pas vers le bas, mais vers le haut, s'il avait dit des choses Je veux dire, c'est tout l'appareil du parti, de la direction du parti français qui tombait. Donc, avant même de se dire, mais comment on peut interpréter quoi que ce soit, faut simplement raisonner en termes de logique. Là, ce qui était en jeu, potentiellement, c'est toute la direction du parti français. Alors, de dire ensuite l'affiche rouge, l'impact de l'affiche rouge, il y a des choses tout à fait symptomatiques. L'une des actions les plus spectaculaires, c'est l'exécution de Ritter. Julius Ritter, par l'équipe spéciale des FTP et Mouille de la région parisienne, avec Kneller, Celestino Alfonso et Reimann, bon, ils exécutent le représentant allemand du STO en France.
Ils ne savent pas.
Et eux ne savent pas.
Ils exécutent.
Ils ne savent pas. Ils savent que c'est une personnalité, mais l'impact potentiel dans l'opinion, ça n'est pas par hasard si la campagne officielle a été très limitée autour de Ritter dans les journaux officiels et dans les officines diverses et variées. C'est parce que, évidemment, Ritter était le représentant d'un traumatisme majeur pour la société française. Donc, penser que là, véritablement, il y avait une sorte de coupure et que, comme c'était des étrangers... Oui, c'est ce que voulaient les Allemands, c'est ce que voulaient les collaborationnistes, les présenter comme des étrangers. D'ailleurs, le Estin Epstein, comme il était français, on l'a basculé dans un procès qui est un autre procès, alors, où il a été aussi exécuté, Mont-Valérien.
Alors, donc, mais je vous demande quand même, pourquoi avez-vous cité ce long passage du livre de René Rochemann? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, Annette Viverka?
Pour moi, il signifie simplement la complexité, parce que j'en ai cité d'autres aussi. C'est-à-dire que tout n'a pas été aussi simple que le raconte Aragon dans son poème. Les choses sont plus compliquées. Mais effectivement, on n'a aucune étude, aucun rapport de police à notre connaissance, ou comme on dit chez nous, dans l'état des sources, qui nous permettent de mesurer quel a été l'impact de cette affiche. Donc, ce que je voulais faire en citant cet extrait, c'est montrer... Je sais plus si j'ai cité ou pas Simone de Beauvoir.
Si, vous la citez.
Voilà, je la cite aussi, voilà. Donc, c'est de montrer comment les choses sont beaucoup plus complexes et pas unidimensionnelles comme on voudrait nous le faire croire.
D'accord.
En dehors de ça, je voudrais dire deux mots sur Epstein. D'ailleurs, c'est la filature de Missak qui fait repérer à Ivry-Pour-Petit-Bourg Epstein. Ils sont arrêtés tous les deux ensemble. Et Epstein mériterait d'entrer au Panthéon. C'est une belle personne, comme Missak Manouchian.
Comme Missak Manouchian. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement trancher, mais avançons un peu. Après la guerre, Charles Tillon, qui était communiste, a publié la lettre de Manouchian, la lettre à Mélinée. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. Et il est chassé du Parti communiste peu après, et Moscou réplique à Tillon en publiant en 1951 des lettres de communistes fusillés dont les FTP-MOI sont complètement éliminés. Et ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait peu, c'est que c'est Louis Aragon qui a lui-même préfacé ce texte parce qu'il entendait franciser la résistance. Quelques années plus tard, il écrit ce chef-d'œuvre, l'affiche rouge. Donc, dans un premier temps, il semblerait que les communistes, revenus à des sentiments très patriotiques, aient voulu écarter de la mémoire les FTP-MOI. Et ensuite, ça vous le dites, Annette Viverka, ils ont mis en exergue Manouchian un peu au détriment des autres parce qu'il était arménien et qu'il y avait une Arménie soviétique. Donc, il était possible de récupérer la mémoire de ces combattants en les inscrivant dans l'histoire du Parti communiste et même de la Russie. Donc ça, c'est quand même une chose qui mérite considération, Annette.
Oui, Alors, depuis cette annonce de la panthéonisation, j'avoue que je suis sans arrêt en discussion avec moi-même. Et je n'arrive pas à trouver la sérénité. Parce que Manouchian est une très belle figure. D'ailleurs, on le voit dans le Missag de Didier Deninx, c'est vraiment une belle figure. Et puis, je pense aussi à Mélinée, la petite fille de mon amie Suzanne Srodogara, qui a une histoire analogue à la mienne, qu'on a enterrée il y a 5 ans, et de Michel Marion. Puis je pense aux tailleurs arméniens qui ont fourni logement et travail à mon grand-père quand il s'est réfugié à Grenoble. Et je ne voudrais pas avoir l'air de minorer ce qu'a été le rôle des Arméniens ou d'instituer, je ne sais pas, quelconque concurrence de je ne sais pas quoi. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est comment on a fait de Manouchian le chef d'un groupe qui, et là je cite Denis Péchanski, Courtois, le groupe Manouchian n'a jamais existé sous ce nom. Dans l'après-guerre, on parle un peu des étrangers. Il y a aussi un poème moins célèbre, que je ne vais pas vous lire, d'Éluard sur les étrangers, dans ces années-là, sur les étrangers dans la résistance. Mais quand le Parti communiste évoque Manouchian, il évoque toujours le procès Manouchian-Bortchov. Bortchov, c'est le chef des dérailleurs. Et les choses vont effectivement se modifier quand le Parti communiste va décider d'inaugurer une rue du groupe Manouchian. Donc brusquement, ça devient un groupe. Alors moi, j'ai eu la curiosité d'aller regarder les versions du poème où il se situait dans l'œuvre d'Aragon, dans la Pléiade. C'est dans le roman inachevé. Il est entre un poème sur l'oubli et un poème qui s'appelle « La nuit de Moscou ». 55. On est dans cette période un peu charnière qui suit la mort de Staline. Et donc, le fameux complot des blouses blanches qui fait, heureusement, pchit. Et le 20e congrès de 56 qui n'a pas encore eu lieu. Et c'est une période où Aragon est en train de revisiter, parce que c'est ça le roman inachevé, en train de revisiter sous une forme politique sa vie. Donc, moi, je suis tiraillé entre vraiment l'intense satisfaction de voir qu'on honore Missak Manouchian en le mettant au Panthéon, et le sentiment qu'on est dans quelque chose qui ne correspond pas à la vérité historique, et l'histoire, c'est quand même mon métier.
Denis Péchanski.
Oui, je suis un petit peu stupéfait d'entendre ces différentes prises de position. La première chose, c'est que si on veut comprendre pourquoi on parle plus ou très peu des responsables étrangers résistants dans les années 50 à Paris, en France en général. Faut comprendre que dans le régime mémoriel qui émerge là dans les années 50, l'agenda, c'est les guerres coloniales, ce sont les guerres coloniales et c'est la guerre froide. Et dans la guerre froide, il s'avère que les grands procès de 47, à partir de 47, et on pense au procès de Prague avec quelqu'un comme Arthur London qui et lui aussi sorti de l'anonymat quelques années plus tard avec son livre L'aveu, les responsables étrangers qui avaient fait les brigades internationales, qui s'étaient retrouvés dans la résistance comme responsables de la résistance française, de la résistance des étrangers en France, parmi au sein de la résistance communiste, sont les premiers visés par ces procès. Donc c'est ça la première raison de cette évacuation. Et la surprise, justement, c'est qu'alors même qu'on a évacué, que déjà la mémoire de la résistance devient une mémoire beaucoup plus faible dans les années 50 par rapport à l'après-guerre, à l'immédiate après-guerre, on a en plus une résistance étrangère qui est atteinte de deux façons, par l'État et puis par la mouvance communiste. Bon. Et malgré ça, parce qu'il y a une rencontre tout à fait stupéfiante, avant d'être dans le roman inachevé, c'était Strophe pour se souvenir. Il n'a pas été intégré tout de suite dans le roman inachevé. Or, Aragon, le poète, qui retrouve le poète Manouchian, puis Léo Ferré, ça veut dire que Manouchian, et c'est ça qui est très intéressant et qui permet de comprendre le choix aussi, il rentre dans la mémoire collective.
Oui.
Des dizaines d'années avant de rentrer au Panthéon et même d'être reconnu comme mort pour la France, parce que ça aussi, c'est une autre action. Mais l'important dans l'affaire, quand il y a une panthéonisation, on pourra en parler. C'est un choix, c'est une décision. Et d'abord, il y a un comité derrière qui a été constitué à l'initiative de Jean-Pierre Sakoun et l'Unité laïque, dans une perspective universaliste, et qui a réuni toute une série de personnalités, mais alors de tous bords politiques, de tous horizons, pour cette panthéonisation. Et qui, effectivement, quand on écoute le discours du président de la République, Emmanuel Macron, la dimension universaliste, le fait qu'avec Manouchian, ce sont tous les étrangers dans la résistance qui rentrent au Panthéon. Ce sont les 23 qui rentrent au Panthéon. C'est affirmé par le président de la République le 18 juin dernier.
Mais la question aussi est de savoir quelle est la portée symbolique que l'on veut donner à l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Parce que dans le journal Le Monde, il nous est expliqué qu'il s'agit en quelque sorte de répondre à une extrême droite qui part de la menace de l'immigration et veut instaurer la préférence nationale. Donc ce serait comme un message pour les immigrés. Et dans un article avec Sakoun, Denis Péchanski, vous donnez l'exemple de Boris Vildé, qui avait fui la Russie peu après la révolution d'octobre. Il avait fondé le réseau du Museau de l'Homme. Il est arrêté en mars 41. Il est exécuté au Mont-Valérien en 1942. Lors de son procès, il lance à ses accusateurs le mot de Goethe « Tout homme a deux patries, la sienne et la France ». Toujours est-il que aujourd'hui, la situation n'est pas du tout la même. Dans les territoires perdus de la République, très rares sont les gens qui disent « Tout homme a deux patries, la sienne et la France ». L'une des injures les plus répandues dans les cours d'école, avec ça le juif, c'est ça le français. Donc il est assez curieux qu'on veuille donner cette signification-là à l'entrée au Panthéon de Manouchian. Même si je vous suis, avec lui, ce sont tous les étrangers qui se sont battus pour la France, qui sont panthéonisés.
Oui, moi je veux bien qu'on dise que c'est de l'universalisme, mais l'universalisme, ça aurait été de montrer que ce sont des Polonais, des Roumains, des Bulgares, c'est-à-dire de montrer finalement qu'on avait une sorte d'Europe dans ce groupe de 23. Donc là, on dit universalisme, et malgré tout, on a quand même un peu le sentiment qu'on est dans du communautarisme, plus que dans l'universalisme. Parce que c'est les seuls Arméniens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le discours, mais on va voir la déferlante sur les Arméniens uniquement. Les bandes dessinées, enfin tout ce qui va être fait. Et pas ce côté groupe. Et brusquement, si on accepte le terme de groupe, le groupe, ça devient un couple. Donc, moi, je pense qu'on est en train de créer une légende. Là, je voulais vous lire quand même, si j'ai une minute, le carton que Guédiguian a mis à la fin de son livre, à la fin de son film. Il écrit « Pour rapprocher au plus près la vérité profonde de l'engagement des étrangers dans la résistance française, j'ai dû modifier certains faits. Et bousculer la chronologie. » Bon, il met par exemple Raph du Veldiv en 43, s'il trouve que c'est mieux, c'est plus vrai. C'était nécessaire pour que cette histoire vraie devienne une légende pour aujourd'hui et qu'elle nous aide à vivre ici et maintenant. Donc c'est déjà dans l'armée du crime, là je cite Guédiguian, hein, c'est pas moi. Donc on a effectivement ce qui est normal, puisqu'une panthéonisation, c'est un acte politique. Alors, quels vont être les effets sur le racisme, la xénophobie dans notre pays? Bon, moi, je suis sceptique, mais je suis sceptique sur tellement de choses aujourd'hui.
Denis, moi, mon problème, ça n'est pas que Missak Manouchian rentre au Panthéon. Ça n'est pas qu'un résistant étranger rentre au Panthéon, ça n'est pas qu'un résistant communiste entre au Panthéon, c'est que ça soit le premier résistant étranger et le premier résistant communiste à rentrer au Panthéon. Enfin, faut être un peu sérieux quand on travaille sur cette histoire. point. Alors non, à partir de là,
Denis Péchanski, on ne travaille pas sur l'histoire là. On travaille sur la politique.
Mais là, on parle entre nous
alors,
sur les politiques mémorielles, et je dis simplement que, bien entendu, que déjà quand François Hollande a fait rentrer en 2015 quatre éminents représentants de la résistance, on lui avait fait la remarque. Et il n'en a pas tenu compte pour des raisons qui ne sont pas encore bien claires. On avait posé la question, d'ailleurs, déjà, de Manouchian et plus généralement des étrangers dans la résistance. Et des communistes, il n'y en avait pas. Bon, donc, sur les quatre. Et on pourrait revenir encore en amont. Donc là, symboliquement, le fait qu'il rentre au Panthéon, c'est quand même un point important. Je rajouterai quand même aussi une chose. C'est que le 18 juin, non seulement le président de la République a annoncé la panthéonisation de Manouchian, mais 91 des fusillés, otages ou condamnés à mort, fusillés au Mont-Valérien, ont été dits morts pour la France, alors qu'ils ne l'étaient pas jusque-là. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient étrangers.
Bien. Mais alors la question que je persiste à vous poser, Denis Péchanski, là, j'emprunte une citation de Pierre Ouzoulias, député communiste, dont le grand-père a été, je crois, associé à Manouchian dans la résistance. Il dit de cette panthéonisation que c'est un message fort d'intégration pour les jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais ça, c'est son. Je veux dire, c'est normal qu'un responsable politique, puisqu'il est sénateur communiste, donne une interprétation politique d'un geste mémoriel. Ça me semble tout à fait logique. Bon, il s'avère que son grand-père était le supérieur hiérarchique d'Epstein, qui lui-même était donc le supérieur hiérarchique de Manouchian. Ça fonctionne comme ça. Donc évidemment, cette histoire, il la vit depuis très longtemps.
Et on peut rendre d'ailleurs hommage à ce que fait Boris Hollande, que ce que fait Boris Holban dans Testament à Ouzoulias, parce que c'est grâce à lui que Epstein a retrouvé une place qui était totalement ignorée. Bon. Écoutez, il y a un discours de construction de la nation, d'unité de la nation. Je ne suis pas certaine que ces gestes symboliques, donc il y avait Joséphine Baker que j'adore bien évidemment, au Panthéon. Donc il y a en ce moment une sorte de propension à faire des panthéonisations, j'ai envie quand même de dire, qui ont un aspect communautaire. Dans l'idée que ça va aider à refaire du lien national, ce qu'on souhaiterait. Moi, je souhaiterais que tout aille bien et que... Bon, l'efficacité de ce genre de choses, elle reste à démontrer.
Vous savez combien il y a eu
Denis Péchanski
parmi les fusillés du Mont-Valérien ? Donc, un tout petit peu plus de 1000 fusillés au Mont-Valérien, principal lieu d'exécution... otages résistants en France. Bon. Combien il y avait d'étrangers ? Il y en avait 185 otages et résistants. On sait le rôle qu'ont joué les étrangers, pas simplement en région parisienne, mais aussi, évidemment, dans le sud-ouest, à Lyon, à Grenoble, etc. Donc, effectivement, de rendre un hommage mémoriel aux étrangers dans la résistance,
c'était...
ça semble s'imposer.
Voilà.
Quand même. Et depuis des décennies. Mon problème, c'est pas pourquoi on le fait aujourd'hui, mais pourquoi on l'a pas fait avant.
Le problème de ces fusillés, qui a très bien été étudié par Serge Klarsfeld, c'est que pratiquement 20-25% étaient des juifs. Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais 7 des 10 de la fiche rouge le sont, et 12, si j'ai bien compté, des 23. En intégrant Olga Benchi, qui n'est pas morte quand les fusils fleurirent, mais était juif. Donc il y a aussi cette question-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire juif étranger, juif immigré ?
Bon, bien écoutez, en effet, en tout cas, on peut aussi penser qu'avec Manouchian, ce sont tous les fusillés de la Friche Rouge qui, d'une certaine manière, entrent au Panthéon. Et on peut aussi se demander... si ça aura l'effet souhaité par un certain nombre de gens, parce que je parlais la semaine dernière des indigènes de la République. Ils disent que la décolonisation de la République est à l'ordre du jour. Il est clair que les étrangers qui se sont battus pour la France ne raisonnaient pas en ces termes. En tout cas, je vous remercie, Denis Péchanski et Anna Diverka. Je rappelle, Denis Péchanski, que vous avez écrit « Des étrangers dans la résistance » aux étudiants de l'atelier. Et au mois de novembre, va paraître un livre sobrement intitulé « Manouchian » aux éditions textuelles. Vous l'avez coécrit avec Claire Mouradian et Astrid Atamian. Anna Diverka, vous avez publié « Ils étaient juifs, résistants, communistes » aux éditions Perrin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Canac, à la technique aujourd'hui Sandrine Malon. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Penser avec Simone Veil ». Mes invités seront Alice Ménesson et Pascal David. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.